Voilà, j'espère que vous tenez le coup, parce que les après-midi peuvent être difficiles, hein. Alors, bon courage. Nous allons reprendre cette deuxième caractéristique d'un bon bâtisseur de pont, fils d'encouragement, pour ajouter juste deux ou trois réflexions encore avant de passer à la troisième des caractéristiques. Nous avons donc évoqué l'importance de dire non à la sclérose du regard. Ne pas juger les autres une fois pour toutes. L'écrivain français Charles Péguy a un jour écrit ceci: il y a quelque chose de pire que d'avoir une mauvaise pensée, c'est d'avoir une pensée toute faite. Le savant Albert Einstein a dit un jour, et il s'y connaissait en la matière, les préjugés sont plus difficiles à désagréger que les atomes. Et vous savez que rien n'est plus décourageant que de s'entendre dire, malgré tous ses efforts, tu n'as pas changé. Vous savez que dans l'éducation des enfants, ceci est d'une importance capitale. Un enfant qui fait des efforts, qui vraiment a soif de progresser, puis le jour où il a une défaillance qui s'inscrit dans l'ornière du passé, celle que connaissent si bien les parents, il s'entend dire, mais tu vois, tu n'as pas changé. C'est facile. Et vous savez, c'est aussi ce qui fait peur à certains rétrogrades qui reviennent au Seigneur et qui ont aussi soif de vie d'église locale. Comment sont-ils accueillis? Vous savez, le fils prodigue, c'était un rétrograde. Il avait quitté la maison du Père. Il revenait au Père. Imaginez un seul instant qu'il ait croisé sur sa route de retour, en premier lieu, le regard sclérosé de son frère aîné. Ça, c'était du Caïn et Abel tout craché qui se reproduisait, n'est-ce pas? C'est pas vrai? Dans sa bonté, le Seigneur Jésus, en racontant cette parabole, a choisi heureusement de faire paraître en premier lieu le Fils dans la présence du Père. Le regard de la grâce. Et pourtant, ce fils sentait encore mauvais, n'est-ce pas? Il n'a pas tout de suite été, comme on dit chez nous, sur son 31. Et pourtant, le Père a su si bien l'accueillir. Et vous savez, je crois que l'attitude de souplesse du regard de Barnabas a certainement beaucoup marqué Paul, puisque Paul a su plus tard, bien plus tard, nous ne le verrons pas dans le cadre de cette journée, mais cela figure dans mon livre, plus tard Paul saura avoir exactement la même attitude. J'ai relevé récemment dans une causerie, dans une émission évangélique en Martinique, dans les Antilles françaises, cette parole d'un prédicateur: les cercueils ne changent plus de taille et de dimension. ils ont la dimension figée, définitivement sclérosée de la mort. Et nous pouvons avoir, nous évangéliques, un christianisme très cercueil. Lorsque nous ne reprenons pas les mesures. Troisième caractéristique, eh bien, je l'ai laissé entendre tout à l'heure, lorsque j'ai souligné dans Acte 9 que ce n'est pas Saul qui va donner son témoignage. Ce n'est pas Saul. Et là, il y a une sorte de rupture avec un schéma assez classique de témoignage, où on est tenté facilement de pousser devant celui qui a rencontré Christ en lui disant « Allez, vas-y, donne ton témoignage. » Eh bien, il y a des moments où ce n'est pas juste. Il y a des moments où ce n'est pas juste. Tout dépend de l'arrière-plan du passé, du type d'auditoire présent. Et je peux très bien imaginer certaines des raisons qui ont conduit Barnabas à dire à Saul, écoute Saul, tu te tais. C'est moi qui vais donner ton témoignage. Oh, je sais que tu brûles d'envie de parler. Ça, c'était certainement pas le problème de Saul de Tarse. Mais en l'occurrence, dans cette situation, c'est moi qui cause. Et dans un sens, on peut le comprendre parce que, vous le savez, quand on entend, simplement quand on entend, ou quand on réentend pour la première fois, la voix de quelqu'un dont on a subi les souffrances et les souffrances injustes, qu'est-ce qui se passe? Vous savez combien facilement notre oreille se ferme. Simplement, le fait d'entendre la voix fait ressurgir tout un passé, nous glace et empêche une oreille véritablement ouverte. Barnabas savait que ça ne serait pas évident, que ça ne serait pas facile, qu'il fallait faire fondre ce bloc de glace. De peur. Il fallait enfoncer un coin dans cette homogénéité, dans cette solidarité coupable. Et pour cela, il fallait tout d'abord écouter pour être rendu capable de communiquer plus loin. Et Barnabas a une capacité d'écoute qui lui permet de bâtir des ponts, être disposé à écouter. Épictète, le philosophe stoïcien du début de notre ère, a écrit à juste titre, Dieu a donné à l'homme deux oreilles, mais une seule bouche pour qu'il puisse entendre deux fois plus qu'il ne parle. Et il est frappant de constater la place qu'occupe dans les Écritures le vocabulaire tournant autour de l'écoute. Si vous voulez en être convaincu, faites l'expérience vous-même. Vous lisez les 52 chapitres du livre de Jérémie d'un bout à l'autre, un stylo à la main, et vous indiquez dans la marge, chaque fois que vous trouvez un mot qui appartient au langage tournant autour de l'écoute. Vous allez être impressionné. Il y a au bas mot entre 130 et 140 passages qui sont poussés, presque saturés du langage de l'écoute et de la non-écoute. Quelqu'un a relevé la présence du verbe écouter ou du mot écoute 543 fois dans les Écritures, entendre 676 fois, oreille 220 fois, soit environ 1439 fois. La Bible utilise un terme relatif au rôle de l'oreille. Quelqu'un écrit qu'écouter est un art difficile. On ne peut pas écouter convenablement ce que dit quelqu'un si on est préoccupé de son apparence ou de l'impression qu'on produit, si on réfléchit à ce qu'on va dire quand l'autre aura fini de parler, ou encore si on se demande jusqu'à quel point ce qu'il dit est exact, pertinent ou acceptable. Tous ces points ont leur importance, mais seulement après que l'on a écouté les paroles prononcées. Car écouter est avant tout acte d'amour. C'est se donner à quelqu'un, se rendre accessible, vulnérable à ce qu'il dit. Et reconnaissons-le, nous, évangéliques, nous avons une peine toute particulière à écouter les autres. Et je dis volontairement « nous, évangéliques ». Pourquoi ? Parce que nous sommes le peuple de la parole. Parce que nous sommes censés, en tant que disciples de Jésus-Christ, avoir, titre de certains livres, la réponse à tous les problèmes. Ce qui fait que nous sommes en permanence dans nos relations avec les autres en train d'affûter l'arme de notre réponse, j'allais dire l'arme du crime. Ces réponses faciles, bibliques, que l'on assène si souvent sans discernement. Parce que peut-être simplement, le Seigneur vient de nous visiter, de nous faire beaucoup de bien par un texte de sa parole. Nous venons d'avoir une révélation intérieure d'une vérité biblique qui fait du bien à notre cœur. Et puis, à partir de ce moment-là, nous pensons que c'est ce qu'on appelle la panacée universelle. Hein. Tous ceux qui vont défiler en face de nous, s'ils ont le malheur de discuter de leurs problèmes, vont s'entendre dire la même réponse. Oh, le Seigneur m'a fait du bien. Certainement que c'est la réponse pour toi, hein. Ça, c'est comme, en France en tout cas, je ne sais pas comment c'est au Québec, mais en France, les militaires, autrefois, quand ils allaient pour se faire soigner pour un bobo après une marche ou je ne sais quoi, il n'y avait qu'une réponse. Aspro. Aspro, c'est le petit café pour les maux de tête. Mais Aspro est là, saleté, s'en va, n'est-ce pas? Pour tous les bobos, pour tous les problèmes, il n'y avait qu'une seule solution, Aspro. C'est si facile dans nos vies d'avoir comme ça ces petits remèdes miracles. Ça m'a fait du bien, donc ça doit coller pour lui. Si bien que nous n'entendons plus les autres. Un de nos écrivains français, Jules Renard, a écrit ceci, et c'est très bien dit. La conversation est un jeu de sécateurs où chacun taille la voix du voisin aussitôt qu'elle pousse. J'ai relevé cette remarque du docteur Paul Bruin, ce médecin missionnaire qui a tant fait dans le domaine de la chirurgie de la lèpre, de la main lépreuse en particulier, notamment dans le cadre de cet hôpital missionnaire fondé par le médecin missionnaire Ida Scudder en Inde à Vellore. et Paul Brand de dire ceci: quand je demande à mes patients et à leur famille, qui vous a aidé dans votre souffrance? On me donne une réponse étrange et imprécise. La personne décrite donne rarement des réponses faciles et a rarement une personnalité engageante ou pleine d'entrain. C'est habituellement quelqu'un qui est calme et compréhensif, qui écoute plus qu'il ne parle, qui ne juge pas, qui n'offre même pas beaucoup de conseils, une présence. Quelqu'un qui était là quand j'en avais besoin, une main à tenir, une étreinte compréhensive et perplexe, un sanglot partagé. Et j'ai lu avec beaucoup d'intérêt la biographie d'un certain Roger Arnett, paraplégique, engagé dans un grand combat aux USA pour l'insertion des handicapés moteurs dans la société américaine. Son accident remonte au 7 mars 1931, alors qu'il était un grand champion en athlétisme. Son livre est très intéressant et je relève dans ce livre cette remarque: l'aide la plus grande que l'on puisse apporter est un silence paisible, un silence actif qui a un effet curatif sur les âmes troublées. C'est une manière de donner qui demande beaucoup de retenue, de contrôle de soi, d'ouverture d'esprit. Cela agit sur la sensibilité, une douce pression de la main, un bras passé autour de l'épaule, un regard compréhensif, à la fois de compassion et de sympathie, de sorte qu'on se sent doublement compris et que la tristesse se change en sentiment de paix. C'est le langage du cœur, plus ancien que le langage lui-même. Combien de fois ai-je entendu, après un tel échange, « Je me sens mieux maintenant ». L'amour de Dieu dans un corps. Nous sommes toujours dans le prolongement de notre introduction de ce matin. Bien sûr, faut-il ajouter nécessairement ici cet après-midi que nous pourrions être tentés de nous arrêter là parce que, hélas, il existe une mode de l'écoute moderne. D'une écoute grande ouverte, n'est-ce pas? Mais qui non plus, hélas, qui n'a pas de véritable réponse, qui simplement écoute, parce que ça fait bien d'écouter. Alors ce n'est pas ce que je veux dire. Nous pouvons avoir de la part de Dieu, effectivement, des éléments de réponse clairs vis-à-vis de ceux que nous écoutons. Et parfois, il faut le courage pour dire après cela, après avoir longuement écouté, la vérité qui va déranger, qui va nous faire peut-être perdre quelque peu notre cote de popularité, n'est-ce pas? Mais comme nous le verrons peut-être encore, il y a aussi la manière de le faire. Je ne sais pas si vous avez remarqué que dans l'Écriture, il est deux mots que Jésus associait fréquemment lorsqu'il expliquait certaines vérités à la base de paraboles, en particulier à ses disciples. Il disait deux mots: écoutez et comprenez. Écoutez et comprenez. Deux termes fréquemment associé et dont le second est très significatif. Comprendre, en grec, suniemi, qui signifie littéralement être, en quelque sorte sous-entendu, un avec celui qui parle. Être un avec l'autre. Écouter et comprendre, c'est-à-dire écouter en, je l'ai dit souvent, en m'identifiant à l'autre, en me mettant dans sa peau, en faisant corps avec lui, en rejoignant l'autre là où il est. combien cela est fondamental pour pouvoir construire des ponts. Je pense à une tribu d'Amérindiens dans laquelle un juge devait être nommé pour sévir contre les malfaiteurs. Et cette fonction honorable et délicate échut à un jeune guerrier qui, pénétré du désir de juger ses semblables avec équité, s'en alla dans une forêt et fit cette prière. « Ô grand créateur des hommes, empêche-moi de juger un de mes semblables avant d'avoir marché 2 mois dans ses mocassins. Apprends-moi à m'identifier, à me mettre dans la peau de ceux que je dois juger. » Combien cela est fondamental si vraiment nous voulons, vous et moi, être de vrais bâtisseurs de ponts. Et là aussi, je dirais que le Fils de Dieu nous donne un exemple extraordinaire. Je tire d'un ouvrage remarquable cette citation. Le Fils de Dieu n'est pas resté dans la tranquille sécurité de son ciel, indifférent au péché, à la tragédie de l'homme. Il a réellement fait irruption dans notre monde. Il s'est dépouillé lui-même de sa gloire et s'est volontairement humilié pour servir. Il a revêtu notre nature, assumé notre vie, fait face à nos tentations, partagé nos peines, ressenti nos blessures, porté nos péchés, subi notre mort. Il est entré profondément dans notre nature humaine. Jamais il ne s'est tenu à l'écart des personnes qu'il aurait pu cependant éviter. Des parias de la société, il a fait ses amis. Il a touché les intouchables. Il n'aurait pas pu être plus uni à nous qu'il l'a été. Il a connu l'identification totale, celle de l'amour. Je ne sais si vous avez remarqué qu'en résumant l'enseignement que nous avons partagé depuis ce matin, nous avons brossé de manière très pratique le tableau d'une vraie consécration. Nous avons évoqué la consécration comme la mise de tous mes biens, en réalité ceux dont je suis le gérant, au service de l'encouragement. Nous avons évoqué la nécessité de mettre, oh, disons-le aussi, c'était entre les lignes, mes pieds, quand Barnabas va construire un pont, il est évident qu'il doit ordonner à ses petits pieds de le conduire dans une direction qui n'est pas du tout facile à assumer. Vous allez m'emmener dans la direction d'un certain Saul de Tarse. Mettre mes pieds au service de l'encouragement, mettre ma langue, mon regard, mes oreilles à la disposition du Seigneur afin qu'ils soient des instruments d'encouragement. Quelle mobilisation, quelle opération mobilisation dans la direction de la consécration, une langue maîtrisée par le Saint-Esprit. Un regard non sclérosé, une oreille ouverte, à l'écoute de l'autre, mais par contre, pourrions-nous dire, fermée à l'écoute de la médisance. C'est Bernard de Clairvaux qui a dit, celui qui médit et celui qui écoute le médisant, tous deux ont le diable sur eux, mais l'un l'a en la langue et l'autre en l'oreille. Combien cela est vrai. Langue maîtrisée par le Saint-Esprit, regard non sclérosé, une oreille ouverte et un portefeuille et des biens à la disposition du Seigneur. Nous allons maintenant vers le troisième texte important qui suit dans Acte 11, à partir du verset 19. et jusqu'au verset 26, acte 11, 19 à 26. Il n'est pas question de Barnabas entre le texte que nous avons évoqué dans acte 9 et le texte que nous lisons maintenant. Ceux qui avaient été dispersés par la persécution survenue à propos d'Étienne allèrent jusqu'en Phénicie, dans l'île de Chypre, et à Antioche, annonçant la parole seulement aux Juifs. Il y eut cependant parmi eux quelques hommes de Chypre et de Cyrène qui, étant venus à Antioche, s'adressèrent aussi aux Grecs et leur annoncèrent la bonne nouvelle du Seigneur Jésus. La main du Seigneur était avec eux, et un grand nombre de personnes crurent et se convertirent au Seigneur. Le bruit en parvint aux oreilles des membres de l'église de Jérusalem, et ils envoyèrent Barnabas jusqu'à Antioche. Lorsqu'il fut arrivé et qu'il vit la grâce de Dieu, il s'en réjouit. Et il les exhorta, parakaleo, il les encouragea tous à rester d'un cœur ferme, attaché au Seigneur. Car c'était un homme bon, rempli d'Esprit Saint et de foi. Et une foule assez nombreuse se joignit au Seigneur. Barnabas partit ensuite à Tarse à la recherche de Saul. Et, l'ayant trouvé, il l'amena à Antioche, et pendant toute une année, ils se réunirent aux assemblées de l'Église, et ils enseignèrent beaucoup de personnes. Ce fut à Antioche que, pour la première fois, les disciples furent appelés chrétiens. Barnabas, un homme de progrès. Un homme qui nous laisse à travers ce texte un beau message que nous pourrions résumer par cette sorte d'exclamation: tes bénédictions, tes progrès, ça m'intéresse. Ou encore la croissance de l'Église, ça m'intéresse. Je suis soucieux du mieux-être de l'Église. Nous sommes dans l'année 44, voire 45, c'est-à-dire environ 9 ans, et c'est intéressant et c'est important, 9 ans après le texte d'Acte 9, 26-27 que nous avons longuement étudié. Et vous remarquez avec moi que l'Église de Jérusalem va se trouver devant une situation un peu particulière, puisque à quelques 475 kilomètres au nord, même un peu plus, de Jérusalem, dans une immense cité qui fait à cette époque un demi-million d'habitants, Antioche, capitale de la province de Syrie, dans cette cité prestigieuse, et pourtant aussi de mauvaise réputation, il s'y passait des choses très peu recommandables. La pollution morale qui sévissait à Antioche, en Syrie, était telle que certains auteurs romains, bien connus comme Juvénal et d'autres, écrivait aux citoyens de Rome qu'ils devaient absolument se méfier de la pollution morale qui émanait d'Antioche à 2000 kilomètres de là. Et pourtant, Rome n'était pas un exemple dans le domaine moral. C'est vous dire la triste réputation des habitants d'Antioche, des fauteurs de désordre, à l'esprit caustique, ayant le sens du ridicule et surtout une vie sexuelle absolument débridée, liée d'ailleurs aux pratiques d'un certain nombre de cultes, même d'un foisonnement de cultes païens, idolâtres, très, très sales et pernicieux. Et là, dans cette gigantesque cité de l'époque, cette Antioche l'Admirable, la reine de l'Orient, troisième cité prestigieuse de tout l'Empire romain, se passe un miracle extraordinaire. Dieu sauve des hommes et des femmes, des jeunes gens, des jeunes filles, qui n'ont rien à voir avec le monde juif. Une grande majorité, oui, il y avait une communauté juive dans la ville d'Antioche, mais là, des centaines et des centaines, peut-être des milliers de personnes qui n'ont rien à voir avec le judaïsme se convertissent à Jésus-Christ dans cette immense cité de mauvaise réputation. Et donc, le bruit, littéralement la nouvelle, au logos, la nouvelle, le bruit en parvient aux oreilles des membres de l'église de Jérusalem. Situation nouvelle, à une assez grande distance, qui certainement n'est pas sans provoquer quelques battements de cœur, quelques rythmes de tachycardie ou je ne sais quoi encore, chez certains membres aînés de l'église de Jérusalem. On doit froncer les sourcils, mais qu'est-ce qui se passe là-haut? Et donc on va choisir quelqu'un pour effectuer une mission assez délicate, aller voir ce qui se passe exactement, peut-être, on ne le sait pas, faire un rapport, vérifier des bruits, une nouvelle, faire un rapport objectif sur la naissance étrange et spectaculaire d'une sorte de bébé spirituel hors norme. Une communauté évangélique à prédominance païenne. Et vous avez remarqué, c'est quand même intéressant. Hein? Qui choisit-on pour cette mission délicate dans cette grande église de Jérusalem? Eh bien, on choisit notre ami Barnabas. On choisit Barnabas. Et Barnabas donc fait sa valise. Et il monte là jusqu'à Antioche. Et j'aime le verset 23. Lorsqu'il fut arrivé et qu'il vit la grâce de Dieu, il s'en réjouit. De quoi nous sommes-nous entretenus pendant une partie de notre séminaire? Nous avons évoqué le regard de Barnabas et nous avons dit que la particularité du regard de Barnabas, c'est qu'il ne s'agissait pas d'un regard sclérosé. Eh bien, nous le vérifions ici. Parce qu'il nous est dit, je le relis, lorsqu'il vit la grâce de Dieu. Première constatation donc, Barnabas à ce que j'appellerai cet après-midi le regard de la grâce. Le regard de la grâce. Encore une fois, n'est-ce pas, un regard vraiment consacré au Seigneur. Le regard de la grâce. Et c'est important parce qu'il s'agit du regard de Barnabas. Tout simplement parce que Barnabas, c'est pas n'importe qui. Barnabas n'est pas un pagano-chrétien. Barnabas est un judéo-chrétien. C'est un disciple de Christ d'origine juive. Et non seulement d'origine juive, mais appartenant au corps des Lévites, à ce corps sacerdotal qui, disons, attache une importance à une pratique précise, fidèle de la loi de Dieu. C'est-à-dire que Barnabas pourrait avoir un regard de lévite. Il pourrait avoir un regard de judaïsant, légaliste, marqué par son passé avant sa conversion à Jésus-Christ, jugeant en connaisseur les choses de la religion et dressant donc immédiatement, en observant l'église d'Antioche, dressant donc immédiatement la liste de ce qui ne va pas. Vous savez que c'était là la réaction très habituelle des pharisiens. Quand un miracle se faisait, un miracle, tous les miracles sont étonnants, mais lorsqu'un miracle vraiment percutant se faisait sous les yeux des pharisiens, vous savez quel était leur problème, ils ne le voyaient pas. Un homme qui avait été pendant 39 ans un grabataire, incapable de bouger le moindre petit doigt, et qui sous leurs yeux se lève, prend son lit et marche, la seule chose qu'ils sont capables de lui dire, mais qu'est-ce que tu fais un jour de sabbat à te promener avec ton lit? Ils n'ont pas vu le miracle, n'est-ce pas? Et ça, c'est une permanence dans l'attitude des pharisiens. Ce regard dur, sclérosé, légaliste qui ne sait pas voir les miracles. Parce qu'il scrute la moindre désobéissance à la loi. Érigée, bien entendu, en divinité. Ah, vous savez, c'est tentant, hein, quand on visite une autre église. Hein, j'en visite beaucoup. Vous imaginez donc que je dois être très tenté. Voir la grâce de Dieu. Pourtant, vous savez, tout ne devait pas être fameux dans cette église d'Antioche. Vous imaginez ce bouillonnement. Tous ces bébés spirituels qui avaient derrière eux non pas cette connaissance des Écritures de l'Ancien Testament qui était, je dirais, l'héritage extraordinaire et pesant d'ailleurs de l'église de Jérusalem. Hein, à Jérusalem, on se convertit à Jésus-Christ et pouf, on passe dans l'eau. Hein. On est baptisé aussitôt, pas besoin d'instruction, de formation. Ils connaissent tous tellement bien l'Ancien Testament. À Antioche. Quelle vision de Dieu est-ce qu'on a à Antioche? Quelle vision du salut? Quelle vision de l'homme? Quelle vision du mariage, de l'éducation des enfants, de la vie professionnelle? Tout ça, c'est méli-mélo, n'est-ce pas? Ça doit être terrible. Alors, bien sûr, tout cela se voit quand je dis que Barnabas a le regard de la grâce. Ça ne veut pas dire un seul instant que son regard n'est pas lucide. La preuve, et là j'anticipe quelque chose que nous ne verrons pas dans le détail, mais qui est dans mon livre, il va aller à la recherche d'un certain Saul de Tarse. Et s'il part à la recherche d'un Saul de Tarse, c'est bien parce qu'il a constaté que cette église en ébullition, toute neuve, court un certain nombre de dangers, qu'il y a des choses qui ne vont pas, et si ça continue, ça risque de s'accentuer, ça risque de faire mal. Et je dirais que le processus que vit l'église d'Antioche, c'est un processus qu'a vécu le Québec dans le bouillonnement de ce qu'on a un peu appelé un petit réveil spirituel dans les années 70 et début des années 80, lorsque vraiment les portes se sont ouvertes, lorsque des hommes et des femmes se sont tournés vers Jésus-Christ en, disons, en nombre assez anormal dans le bon sens du terme par rapport au passé, lorsque des communautés sont nées. Et puis qu'ensuite, on s'est rendu compte que... il y avait un problème de logistique, d'intendance. Tous ces bébés qui découvraient la personne de Jésus-Christ, le salut, l'importance des Écritures, etc., étaient très très fragiles. Et puis véhiculaient toutes sortes d'idées fausses qui étaient liées à leur passé, qui étaient là, je dirais comme on dit dans les tripes, qui étaient viscérales, qui étaient inscrites dans les chromosomes de l'histoire du Québec sur des centaines d'années. Et puis vous le savez parce que certainement la logistique, l'intendance, la mise en place de ce qui pouvait aider ces tout jeunes croyants à aller plus loin à tarder, ce n'est pas un jugement que je porte, mais simplement une constatation qui existe dans bien d'autres pays du monde, eh bien, il y a eu un flottement qui s'est installé, une désaffection, des gens qui sont entrés dans l'Église et qui sont ressortis très vite pour se joindre à des sectes. Et puis finalement, il y a eu une prise de conscience. Et des hommes se sont levés en disant, non, mais il faut vraiment maintenant que on s'occupe de ces nouveaux-nés ou de ces personnes qui ont pris une décision, mais où ce n'est pas clair. Il faut qu'on s'occupe pour que cette Église maintenant devienne adulte, qu'elle devienne majeure, qu'elle devienne stable, qu'elle ait ses propres structures, ses anciens, ses prédicateurs, ses évangélistes. Et on voit peu à peu que les choses évoluent. Eh bien, l'Église d'Antioche, c'est ça. Et ce que je viens d'expliquer brièvement en évoquant le Québec, je le vois dans mes voyages annuels aux Antilles françaises, en Martinique, en Guadeloupe et dans d'autres régions du monde, où les églises grandissent très vite, mais où l'intendance ne suit pas, où il y a des besoins d'enseignants, de formation, de conseils. Parce qu'il y a une multitude de bébés dans la foi, mais il manque les sages-femmes, les infirmières et tout le personnel, les diététiciens et autres, n'est-ce pas, pour s'occuper de tous ces petits-enfants afin qu'ils passent rapidement du biberon du premier âge à la viande moulue et puis au bistec un peu plus fort, etc. Nous nous comprenons, n'est-ce pas? Alors il y a chez notre ami Barnabas à la fois ce regard de la grâce, mais qui prédomine. Qui vient en premier lieu, et en même temps ce regard lucide, qui voit, le regard lucide de l'amour, qui voit les besoins, et qui va, à cause de cela, intercéder, prier, réfléchir, rechercher, comment pouvoir faire face à ces besoins dans l'Église d'Antioche. Mais d'abord, le regard positif, de la grâce, ceci sur une église profondément différente de celle de Jérusalem. Combien l'église mère, en quelque sorte, de Jérusalem et l'église fille d'Antioche étaient des églises différentes. Et voyez-vous, je suis très frappé, en voyageant beaucoup et dans des pays très différents les uns des autres, de voir la diversité d'expression de l'Église de Jésus-Christ. Sur le même fondement, je dirais avec le même message, avec le même souci de fidélité aux Écritures, mais quelle diversité! Quelle extraordinaire diversité! Quand je serai cet été au mois de juillet au Sénégal, je vais voir l'église du Sénégal, qui est une église mais totalement différente de l'église française, de l'église du Québec. Lorsque je serai cet automne aux Antilles, je vais voir encore une église différente et de celle du Sénégal, de celle de la France, de celle du Québec et ainsi de suite, n'est-ce pas? Et pourtant, nous avons tous le même Seigneur, tous les mêmes Écritures, tous le même Esprit. Et pourtant, que de différence? Et puis que d'imperfection. Chers frères et sœurs, quel est notre premier regard sur les autres? Quel est notre premier regard? « Quel est notre premier regard? Qu'est-ce que vous voyez? Merci, je l'ai entendu. Il n'a pas osé dire parce qu'il ne veut pas se faire coincer. Je suis méchant, hein, volontairement. J'ai mis la tache au milieu de la feuille. Mais même, je suis persuadé que si je l'avais mis sur le côté, vous auriez dit une tache aussi. Rassurez-vous, il y a un certain nombre d'années, quand on m'a joué le tour, je suis tombé dans le piège aussi. Et j'ai dit naïvement une tâche. Et on m'a répondu, mais non. C'est une feuille blanche sur laquelle se trouve une tâche. Et ça fait toute la différence. Vous savez, notre langage nous trahit. Et nous pourrions faire ainsi cet après-midi une quantité d'autres tests. Quand j'explique dans l'église que l'homme est une créature tripartite, même s'il y a des nuances à l'intérieur de ces trois dimensions de l'être humain, certains éléments, esprit, âme, s'imbriquant l'un dans l'autre, et donc il faut faire très attention de ne pas couper tout cela en tranches. Ce n'est pas le but des Écritures pour lesquelles que Dieu nous a donné. Mais quand je pose la question, si l'homme est une créature tripartite, quelles sont les trois composantes de l'homme? Alors, quelles sont les trois composantes de l'homme? Alors, il y a ceux qui disent l'esprit, l'âme et le corps, et ceux qui disent le corps, l'âme et l'esprit, n'est-ce pas? Mais 99 fois sur 100, nous disons le corps, l'âme et l'esprit. C'est notre première réaction et c'est généralement lorsqu'un jour nous avons été rendus attentifs à l'ordre des Écritures, l'esprit, l'âme et le corps, que nous changeons. Et que nous mettons les choses dans l'ordre de Dieu. Mais nous sommes des êtres tellement centrés sur le corps que nous avons de la peine à entrer dans l'ordre de Dieu. Et nous pourrions ainsi faire quantité d'autres tests. Quel est notre premier regard? Voilà une question que je vous laisse. Nous allons nous arrêter là. J'ai l'indication chant debout, mais je vais laisser mon frère, s'il est par là, prendre la suite pour ces 10 minutes. De bref arrêt.